comme on a vu dans la Parchat HaKhodesh, tout a commencé au Nissan. Moi, à ce moment-là, les Israéliens ont reçu, alors qu'ils étaient encore esclaves, ils ont reçu la première mitzvah, et donc cette fameuse mitzvah qui indique la maîtrise du temps. Donc, puisque tout commence à ce moment-là, alors on voit que le Baal Agada, il ramène une discussion dans les Chachamim, Yachol Merosh Chodesh. On aurait pu penser que voilà, le récit, il faut le commencer à Rosh Chodesh, puisque tout commence à Rosh Chodesh. Et finalement, la Gemara dit non, le récit que je veux que tu fasses, ce récit, il résulte de Bavur Zé. Vous vous souvenez, il y a cette machloquette entre Rashi et Ramban, pour savoir, pour Rashi, les nissim qui ont eu lieu, c'est les nissim qui ont eu lieu pour qu'on les raconte. D'accord? Bavur Zé, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça, dit Hachem, je fais tout ça pour que tu le racontes. Le Ramban, lui, pense autrement, il pense que l'essentiel, c'est les nissim, et que les mitzvot sont seulement des moyens de réactiver, en quelque sorte, les situations dans lesquelles on était. Et c'est sur le même mode, d'ailleurs, qui traite le problème du Mishkan, mais je ne veux pas revenir là-dessus encore une fois. Et donc, tout ça, c'est Bavur Zé. Bavur Zé, alors Chazal font une dracha sur Bavur Zé en disant, le récit dont je te parle dans le Bavur Zé, c'est seulement quand c'est Zé. C'est-à-dire, Zé, c'est toujours ce qu'on peut montrer du doigt. Donc, c'est seulement quand on peut montrer les choses du doigt, c'est-à-dire lorsque tu as sur ta table, au moment où tu fais ce récit, tu as de la matzah et du maror. Donc, la grande mitzvah qui est Sipur Yetziat Mitzrayim, elle ne peut se faire qu'en présence de matzah et maror. La matzah joue effectivement un rôle fondamental, il y a une mitzvah tassée, de manger la matzah le soir du Seder, le soir de la nuit du 15. On a donc une mitzvah de manger la matzah. Alors, il y a quelques farshim, poskim, qui disent que, alors bien sûr, la matzah, c'est la matzah qu'on mange au début du repas, sur lequel on fait la bracha de la achilat matzah. D'autres disent d'ailleurs que la mitzvah d'achilat matzah, c'est la fikoman. C'est avec la fikoman qu'on mange, on fait vraiment la mitzvah. Ah, et la bracha, on le fait avant, ça, c'est déjà un autre problème. Donc, la matzah joue ce rôle fondamental. Et la matzah, c'est le centre, en quelque sorte, de notre récit, dans la mesure où, justement, tout commence par la présentation de la matzah en disant « Ha lachma ania yachalu amatana b'mitzrayim ». Ceci est le pain pauvre, le pain de pauvre, le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. C'est là, voilà, quand on soulève le plat, on dit « Ha lachma ania », voilà, ce plateau là, sur lequel il y a la matzah, cette matzah elle est présentée comme le pain du pauvre. Et puis, bien plus tard, à la fin du récit, pratiquement, quand on va manger, on va faire la bracha, la rilat matzah, la matzah en question, elle est devenue une matzah qui est le pain de la liberté. Alors, je répète ce que j'ai déjà souvent raconté, il faut comprendre comment se fait-il qu'au début du Seder, la matzah est le pain du pauvre, le pain de l'esclavage, et qu'un peu plus loin, à la fin, c'est pas la complète fin, mais du coup, c'est la matzah devient le pain de la liberté. Alors, une des réponses, en tout cas, celle que je préfère, c'est la chose suivante, c'est de dire que, comme vous savez, la matzah, elle est sur la table, et pour le kiddush par lequel on a commencé, on a, comme on fait Shabbat, on a recouvert la matzah. Et puis après, on te dit, le récit, il doit se faire à matzot découverte. Bon, c'est fondamental parce que c'est justement parce que les matzot sont découvertes qu'elles peuvent justement changer de nature au cours du récit. En quelque sorte, elles sont bombardées par nos mots, par les mots qu'on dit sur le contenu de la Haggadah. C'est ça, cette espèce de bombardement qui l'a fait évoluer. Alors, ce n'est pas la Matzah qui change, c'est évidemment notre regard à nous sur la Matzah. Avec le travail qu'on fait avec grâce au récit, alors on peut s'apercevoir que finalement, la Matzah, elle peut être pain du pauvre ou pain de la liberté. Ça dépend tout de notre regard à nous sur cette Matzah. Et notre regard à nous, il change parce que, bon, alors on va dire, la Matzah, elle est changée par le bombardement, mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous, par le récit que nous faisons de cette sortie d'Égypte, nous changeons la nature de cette matzah. C'est le même pain, mais il a un autre sens après qu'on l'ait expliqué les choses, en fait. Alors, effectivement, on va commencer par la mise en évidence de la matzah, mais comme toujours, il y a, puisqu'on est on est à Pessah, cette année on sera même Pessah et Shabbat, alors, comme toujours, au début de Shabbat, au début d'une fête, d'un moed, il y a un kiddush. Alors évidemment, on commence évidemment par le kiddush. On commence avec le kiddush, mais ce kiddush-là, il a une double casquette en réalité. Parce que les Chachamim ont fait une takana, ils ont pris une décision, ils ont décidé qu'on allait boire 4 coupes de vin dans cette soirée. Et la première des 4 coupes, c'est le kiddush, c'est le vin du kiddush. Alors d'habitude, dans le vin du kiddush, celui qui fait kiddush, il boit ce qu'il faut boire, les autres, ils boivent aussi un peu. Là, chacun va devoir boire tout un verre parce qu'en même temps, c'est la première des 4 kossot, des 4 coupes qu'il faut boire ce soir-là. Donc quand on dit 4 coupes, on a l'impression qu'il y a 4 coupes tout à coup spéciales. La vérité, c'est que la première coupe, de toute manière, on aurait dû la boire. Enfin, en tout cas, on aurait dû la boire comme pour le kiddush. Ensuite, au Birkat Hamazon, il y a aussi un verre de vin. Enfin, Birkat Hamazon, on fait Zimoun sur un kos, sur une. Donc, en réalité, il y avait déjà deux coupes, mais tout le monde ne devait pas en boire. Enfin, il y avait déjà dans le. Alors, du coup. Maintenant, il y en a 2 autres de coupes, et puis il y a celles-là qui sont maintenant à boire par tout le monde. Donc, on a 4 coupes. Pourquoi 4 coupes? Parce que la Torah, quand elle parle de la sortie d'Égypte comme une délivrance, etc., elle utilise 4 verbes pour décrire la chose. Donc, pour pouvoir décrire la chose, au moins de 4 côtés, en quelque sorte, sous 4 angles. On utilise ces 4 verbes et en souvenir, enfin, par référence à ces 4 verbes-là, nous buvons 4 coupes. Ça, c'est ces coupes qui sont, cette takana, c'est une takana de la banane. La matzah, c'est mina Torah, les 4 kossot, c'est mina banane. Une fois que le kiddush a été fait, qu'on a donc, aussi bu le premier kos. Alors ensuite, il y a Ouchatz, et puis ensuite Karpas. Ensuite, il vient le Karpas. Le Karpas, rapidement, c'est un apéritif. Un apéritif, c'est fait pour ouvrir l'appétit, comme son nom l'indique, paraît-il. Et pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir l'appétit? Surtout qu'on ouvre l'appétit un peu tôt, vu que le carpas, on le mange au tout début, et le repas, si on ouvre l'appétit déjà au carpas, on aura du mal à tenir assez longtemps pour attendre jusqu'au repas. Donc, en vérité, c'est pas l'appétit qu'on ouvre, c'est pas l'appétit pour pouvoir manger, mais c'est l'appétit pour la liberté. Ici, on a un problème, un gros problème, c'est ce problème de la liberté pour laquelle il faut mettre en appétit. Alors, a priori, quand on met en appétit, c'est parce que on n'a pas d'appétit, donc il faut ouvrir l'appétit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la liberté, c'est pas quelque chose à une chose à laquelle on pense naturellement. Ça veut dire que les Bnei Israël qui étaient esclaves, ça faisait 210 ans qu'ils étaient en Égypte, mais disons en gros 90 ans qu'ils étaient esclaves, c'est-à-dire au moins trois générations, eh bien ces gens-là, la liberté, ça ne voulait rien dire pour eux. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu choqués de penser qu'on a la liberté. Ben, de soi-même, si on ne la connaît pas, on n'a pas de référence, on ne peut pas penser la liberté. On pense, on est habitué à ça, ben voilà, c'est ça notre situation. Et donc, en général, la liberté, la mise en liberté, enfin l'appétit pour la liberté, il vient parce qu'il y a un élément extérieur qui nous pousse à cela. Alors souvent, c'est ça soit des gens qui viennent raconter aux esclaves, tu pourrais te révolter, tu pourrais prendre la place du maître, etc. Bien qu'après, on voit très bien qu'ils ne savent pas du tout quoi en faire de cette liberté. Au départ, c'est difficile, ils vont singer les maîtres, quoi. Alors, ils vont... Donc, ce n'est pas vraiment leur usage de la liberté, ils ne savent même pas comment ça se mange. Donc, les Bnei Israël, ils ont visiblement eu besoin d'une mise en liberté, d'une mise en appétit pour la liberté. Ok, mais comment ça a eu lieu? Qu'est-ce que ça a à voir avec un légume? Le carpas, c'est du légume. Il y a ceux qui prennent du radis, du persil, du cerfeuil, des pommes de terre, je sais pas. Enfin, voilà. On mange un boré pris à Adama, un légume. Quand vous mangez un légume, ça vous ouvre l'appétit pour la liberté. Un peu compliqué, même symboliquement, on ne voit pas très bien comment ça marche. Alors, ça marche de façon subtile, parce que, puisqu'on va manger en dehors du repas, on va manger, parce qu'on n'est pas encore dans le repas, on va manger de la légume, on va faire boré pri adama. C'est OK. Et il y a beaucoup plus tard, après avoir mangé la matzah, sur laquelle on a fait la bracha d'Achilat Matzah, on mange le maror. Dans les 15 étapes, il y a, après Motsi Matzah, il y a maror. Le maror sous forme de maror, ou bien le maror dans le korer, peu importe, en tout cas, il y a du maror à manger. Le maror, il est, selon les uns, c'est la chassad, la salade, la laitue, du réfort, enfin bref, chacun son minag. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel on devrait faire la bracha boré pri adama, puisque ça ne fait pas partie vraiment du repas. Et on ne fait pas cette bracha. On fait seulement l'achilat maror. Et pourquoi on ne fait pas la bracha? Parce qu'on est sommaire, comme on dit, on s'appuie sur le boré pri adama qu'on a dit beaucoup plus tôt. Ce qui, halakhiquement, pose bien des problèmes. Mais bon, ça, ce n'est pas notre sujet pour l'instant. En tout cas, on considère que la bracha qu'on a faite sur le carpas, elle inclut le maror. J'ai pas besoin de refaire la bracha pour le maror, parce que j'ai déjà fait sur le carpas. Donc, ça crée un lien entre le carpas et le maror. Or, le maror, il vient à Shemaru et Trayem, c'est-à-dire parce qu'ils nous ont rendu la vie amère. Quel est le summum le moment où la vie était la plus amère, la plus difficile pour les Bnei Israël? C'est quand Moshe Rabbeinu est intervenu. Moshe Rabbeinu est un berger chez Yitro. Un jour, il voit le fameux buisson ardent qui brûle et qui ne se consume pas. Il s'approche et Hachem lui parle. Et il lui dit, tu vas aller sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Tu vas aller, c'est moi qui vais les sortir, mais c'est toi qui vas aller parler, etc. Bon, Moshe Rabbeinu, comme vous savez, il n'est pas très chaud. Il ne veut pas y aller parce qu'il ne veut pas marcher sur les plates-bandes de son frère Aaron, qui lui est sur le terrain à soutenir tout le monde et tout. Et lui, il va arriver. Il y a 60 ans de trou dans le CV de Moshe Rabbeinu. Bon, il avait 20 ans quand il a quitté le palais de Paro. Ensuite, il est parti parce qu'il était wanted. Et il revient sur la scène, il a 80 ans, puisque il va guider le clan d'Israël pendant 40 ans et il meurt à 120. Donc il a 80 ans. Donc de 20 à 80, ça fait 60. Il y a donc un trou de 60. Donc s'il postule un truc pour l'emploi, on va lui demander quand même d'expliquer ce qu'il a fait pendant 60 ans. Alors il y a toutes sortes d'explications, c'est toujours pas notre sujet. Mais voilà, au bout de ses 60 ans, il a 80 ans, Hachem l'envoie chez Paro. Il finit par y aller, une semaine, il a refusé autant qu'il pouvait, finalement il y va, et Hachem lui dit, tu vas aller parler à Paro, et tu vas lui dire, let my people go. Voilà. Il va chez Paro, et Paro lui dit, ton Dieu, je ne le connais pas, j'ai cherché dans le vous des dieux, il n'y figure pas, je ne le connais pas, et je n'enverrai pas les Bnei Israël. Point barre. Et d'ailleurs, puisqu'ils envisagent des trucs incroyables, d'aller servir, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment trop de temps pour réfléchir, et donc on va supprimer ce temps, et donc aggravation de la situation. Les Bnei Israël, qui sont des fabricants de briques, ont besoin du matériau, la paille, pour fabriquer les briques. Jusqu'alors, on leur fournissait la paille. Paro décide, je ne vous fournis plus la paille, débrouillez-vous, allez la couper vous-même. Donc les Bnei Israël qui sont déjà à bout de souffle, ils n'en peuvent plus. Mais bon, ils ont trouvé une posture, comme quand on dit souvent que quelqu'un qui a mal, il trouve une position, une posture dans laquelle ça fait moins mal. Alors, il ne veut plus bouger de cette posture-là. Ils ont trouvé une posture, les Bnei Israël. La preuve, c'est qu'ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Alors maintenant, avec ce tour de vis supplémentaire, c'est insupportable. À ce moment-là, ils crient. Et ce cri-là, c'est le commencement de la prise en charge par les Bnei Israël de la sortie d'Égypte, en fait. On sait bien que tout s'est passé comme par ce qu'on appelle Itaharuta de Leela. C'est-à-dire, tout est venu d'en haut. La sortie d'Égypte, les Bnei Israël, ils sont pour rien. Premièrement, ils ne le méritaient pas. Et deuxièmement, ils n'ont rien fait pour. Quand je dis qu'ils n'ont rien fait pour, il fallait quand même quelque chose qui commence chez eux. On ne peut pas sortir les gens s'ils n'ont vraiment rien compris du tout. Alors, ils ont seulement crié. Dans le Sefer Shemot, il est seulement dit qu'ils ont crié. Moshe Rabbeinu, quand il en parle dans le Sefer Dvarim, il dit qu'ils ont crié vers Hachem. C'est déjà une interprétation de Moshe Rabbeinu. Comme toujours, Moshe Rabbeinu, il interprète toujours les choses positivement pour le clan d'Israël dans toute la mesure du possible. Donc, il fait comme s'ils avaient crié vers Hachem. Bien que le texte, si je ne me trompe pas, je ne vais pas revérifier, mais si je ne me trompe pas, dans le texte, il n'est pas marqué qu'ils ont crié vers Hachem. Donc, ils ont crié quand même. Avant, ils ne criaient pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en appétit pour la liberté, elle passe par quelque chose qui a à voir avec les herbes amères. Puisque le lien, il est fait par la bracha de Bré Pri Adama. Et donc, c'est bien ça. Les herbes amères, c'est la situation insupportable. La situation est devenue le plus insupportable dès lors que Moshe Rabbeinu est intervenu, puisque ça a entraîné que les Bnei Israël ont été sortis de... Aujourd'hui, on dit leur zone de confort. Bon, alors c'est avec beaucoup de guillemets, parce que la zone de confort des esclaves. Mais bon, ça veut dire qu'ils ont été déséquilibrés. Ils avaient trouvé une posture acceptable, ils ont perdu cette posture-là parce qu'il faut aller chercher de la paille maintenant. Et donc, c'est fini, c'est impossible. C'est pas possible, on peut pas produire la quantité de briques qu'on nous demande s'il faut aussi aller chercher la paille. Donc, ils crient, c'est insupportable. Et Hachem va écouter ces cris. Il va intervenir. Mais donc, ça veut bien dire que la mise en appétit, il y a un élément extérieur, c'est-à-dire c'est c'est Paro, à l'instigation de la parole de Moshe, qui lui, Moshe, ne sait pas que c'est cette parole qui est le fondement, le commencement de tout. Lui, il fait un procès d'intention à Hachem. Pas d'intention, il se révolte contre Hachem. Il dit, tu m'as envoyé, et au lieu que ça s'arrange, ça s'aggrave, et toi, tu n'as toujours pas sauvé les Bnei Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, comme vous savez, il a pris une sévère remontrance de la part d'Hachem, et ça va lui coûter très cher, cette histoire. Et donc, il est là, et il fait ses reproches à Hachem. Hachem lui dit, tu vas voir ici, tu verras pas l'histoire avec les 31 rois, etc. Donc, déjà une annonce qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Terminus. Alors, la mise en appétit, elle vient par ce biais-là. Elle vient par une aggravation de la situation. C'est-à-dire, quand la situation de la liberté, de la privation de liberté, devient insupportable, même s'ils ne savent pas du tout ce que c'est que la liberté, mais la situation dans laquelle ils sont est insupportable. On voit aussi aujourd'hui, les Ukrainiens, tant qu'ils n'ont pas été envahis, ils ne sont pas révoltés. Pourtant, ils étaient déjà mal en point. Bon, c'est ça, ça ne bouge pas. Quand on n'est pas obligé tant qu'on trouve une zone de confort, comme on dit, encore avec tous les guillemets qu'il faut, on n'a pas bougé, ils n'ont pas bougé. Donc maintenant, Carpas, c'est la mise en appétit pour la liberté. Après le Carpas, on va fabriquer le fameux pain du pauvre. Le pain du pauvre, à part le fait que c'est un pain plat, etc., c'est l'idée qu'un pauvre, en général, il n'a pas un pain complet. Je veux dire, c'est pas une farine complète. Il n'a pas un pain entier, excusez-moi. Et donc, on va lui fabriquer un morceau de pain, un morceau de matzah. Ce morceau de matzah, on va le fabriquer, on va prendre ceux qui prennent sur la table trois matzot l'une sur l'autre, qu'on appelle Cohen Lévi Israël. Ils vont prendre la matzah du milieu et ils vont la partager en deux. En deux parties inégales. La grande partie, ils vont la mettre de côté. On va tout de suite en dire deux mots. Et la petite partie, c'est ça le morceau. C'est le morceau du pauvre. Alors, on va faire finalement Motsi aussi avec ce morceau-là. Chacun avec la technique qui sera la sienne pour. Est-ce qu'il va falloir prendre tous les trois matzot, deux et demi, ou bien est-ce qu'on triche un peu, on prend une entière et le morceau, et on laisse tomber l'autre. Bon, ça c'est chacun fait comme il pense, ou comme il a vu, ou comme on lui a dit de faire. Voilà, on a fabriqué, ça c'est Yachatz, on a fabriqué la moitié de un morceau de pain, un morceau de matzah, donc, pour le pauvre. Ceci étant, on a maintenant, la matzah est sur la table. Elle a la bonne forme. J'ai un morceau de matzah. Et maintenant, le récit va commencer. Commence ma guide. On va raconter. Alors, pour faire kiddush, on avait, comme on le fait Shabbat, si on avait les matzot sur la table, alors on les a recouvertes avec un apron, avec une serviette, ou d'une manière ou d'une autre. Ou on a enlevé le plat, enlevé les matzot, pour faire kiddush, parce que normalement, si on a devant soi du vin et du pain, la matzah, on doit faire la bracha sur le pain d'abord, parce que le blé, dans la liste, il est avant le raisin, avant le vin. Donc, pour ne pas faire honte au pain, parce que on va faire le kiddush, alors on va couvrir le pain. On couvre. Donc, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire on met du pain et on le couvre. On ferait mieux de pas le mettre du tout, mais bon. Donc, il a été couvert, la matza a été couverte, mais maintenant on la découvre. Tout le récit va se faire devant les matzot, surtout la matza. Et la matza, elle va être découverte durant le Maguid. Aux petites exceptions près, quand on va faire durant le Maguid, il y a le moment où on va boire du vin, alors on va couvrir la matza. Mais après, on va la redécouvrir tout de suite. Ceci étant, il faut qu'on explique pourquoi cette matza au début du repas, c'est la matza du pauvre. Et à la fin du repas, à la fin de la soirée, au début du repas, c'est la matza de la liberté. Alors, on a déjà dit, qu'est-ce qui se passe avec cette matza? Cette matza, elle est bombardée en quelque sorte par des mots. Les mots du récit vont transformer la matza. Elle va passer de matza pain du pauvre à la matza de la liberté. En d'autres termes, c'est pas tellement la matza qui change, c'est nous, notre regard à nous, parce que nous faisons ce récit de la matza différemment désormais, parce que maintenant on a mis du sens à toute cette histoire, et donc la matza peut devenir le pain de la liberté. Donc, on va commencer à raconter. Alors, le récit en question, il y a plusieurs règles concernant le récit. Mais la première règle qui nous intéresse ici, c'est le fait que le récit va commencer par une question, par des questions, en fait, quatre questions, les fameuses quatre questions du Manishtana. Bon. C'est-à-dire, on commence par se demander qu'est-ce que cette nuit-là a